La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ils sont élèves en classe de terminale S, il est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, il voulait se rencontrer pour parler physique quantique, eh bien ce sera chose faite dans un instant, au micro de la tête au carré entre les élèves du lycée Jean Monnet à Montpellier et Jean-Philippe Usan, discussion à bâton rompu pour aborder donc la physique quantique sous différents aspects, mais aussi le métier de chercheur, et vous allez pouvoir nous rejoindre pour discuter avec nous sur ces thèmes, sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». Catherine de Coppé, bonjour.
Bonjour Mathieu.
C'est vous aujourd'hui à la Une de la Science et on s'intéresse ensemble à l'impact de la vie sociale sur la maladie.
Rester seul ou avoir une vie sociale aurait en effet un effet sur la progression de la maladie. C'est ce qu'a observé une équipe de chercheurs en scrutant le comportement de mouches atteintes de cancer. On en parle dans un instant dans ce studio avec notre invité.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format sur France 5, désormais diffusé le jeudi à 20h45, avec ce soir un documentaire sur les premiers Américains. Fanny Boyon réalise cette tête au carré. Préparé aujourd'hui par Chantal de Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dans quelques minutes, on va donc parler physique quantique avec vous, Jean-Philippe Usan, bonjour.
Bonjour.
Et avec les élèves de Terminal S du lycée Jean Monnet de Montpellier, bonjour à vous tous. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ont plein de questions à vous poser, Jean-Philippe Usan, vous qui êtes astrophysicien, avec ce thème de la physique quantique, mais également sur le métier de chercheur. Si vous deviez, tiens, expliquer la physique quantique à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il comprenne exactement de quoi il s'agit? Mais en quelques mots, vous voyez, la physique quantique, c'est quoi finalement?
Politiquement correct ou pas?
Avec, non, incorrect alors,
je préfère. Alors je dirais, comme c'est devenu aujourd'hui en France, et en même temps...
Mm-hmm. C'est votre définition,
bah non,
ça
non, il va y avoir plein de choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris avec la physique ordinaire, toutes nos intuitions sont à revoir.
Mm-hmm.
Et que ça va demander vraiment un travail, pas simplement technique et mathématique, mais aussi de réflexion sur comment est-ce qu'on décrit le monde. Et c'est ça la difficulté de la mécanique quantique. C'est-à-dire que souvent, si vous allez apprendre certains domaines de la physique qui sont compliqués techniquement, mais qui ne remettent pas en cause votre façon de voir le monde, de votre relation au monde, mm-hmm. ce qui est le cas de la mécanique quantique. Et donc, ça veut dire... Va falloir faire des maths, mais va falloir aussi avoir une petite réflexion philosophique.
Bon, on va aller un peu plus loin dans la définition. Alors ensemble, tout à l'heure, j'ai besoin de plus d'éléments de réponse.
Ouais, non, un enfant de 10 ans quand même.
Oui, ouais, c'est ça. Bon, là, ce sont des grands enfants de 17 ans en moyenne d'ailleurs hein, qui sont avec nous. Justine et Cléo, par exemple. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue au micro de la tête au carré. Pourquoi d'ailleurs ce choix de discussion autour de la physique quantique, Cléo, alors? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ?
On a eu le choix entre différents sujets qu'on a pu voir par rapport au projet que nous avons mené. Et la physique quantique était un sujet qui revenait beaucoup et qui intéressait beaucoup d'entre nous. Donc oui. C'est celui-là que nous avons choisi.
Bon, ça vous plaît, Justine, vous, la physique quantique?
Oui.
C'est vrai?
Mais ça a l'air intéressant.
Bon, ça a l'air intéressant. Bon, ben, j'espère que ça va se confirmer, en tout cas, au fil de l'émission. On va se retrouver donc tous ensemble dans un instant. Vous avez de nombreuses questions à poser à Jean-Philippe Usan et puis les auditeurs aussi sur franceinter.fr. L'environnement social joue un rôle important sur l'évolution des maladies, y compris des maladies non transmissibles comme le cancer. Et c'est notre sujet aujourd'hui à la Une de la Science, Catherine de Coppé.
Rester isolé pourrait faire progresser plus vite la pathologie que vivre entouré. C'est du moins une des hypothèses d'une étude publiée le 3 septembre dernier dans Nature Communications qui s'est intéressée au comportement de mouches atteintes de cancer. De quoi ouvrir des pistes intéressantes de recherche pour l'être humain, même si pour l'instant il est impossible de transposer ces résultats justement aux êtres humains. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite grâce à notre invité, Frédéric Méry. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche en biologie du comportement au CNRS, au laboratoire Évolution, Génome, Comportement et Écologie, et vous co-signez donc cette étude. Vous avez pris comme modèle d'observation la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster de son petit nom, et vous avez constaté que ces mouches, quand elles sont atteintes de cancer, elles voient leur maladie progresser plus vite si elles restent seules. C'est bien cela ?
C'est exactement ça. En fait, on utilise un modèle, donc c'est une construction génétique. Grâce à la drosophile, en fait, on peut faire des constructions génétiques assez...
C'est-à-dire que c'est une mouche génétiquement modifiée, en fait.
Génétiquement hein, modifiée, ouais. Exactement.
On l'expliquera peut-être un peu la méthode après.
Dans laquelle on peut induire un cancer. Et ce qu'on observe, c'est ce qu'on voulait s'intéresser, c'était est-ce que l'environnement social affecte la dynamique de l'évolution de ce cancer. Donc on est un peu loin de la...
De la physique quantique.
De la physique quantique. Mais c'était voir, voilà, exactement comment l'environnement social pouvait affecter le développement du cancer. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était que quand une drosophile qui allait développer un cancer, était en isolation, la dynamique d'évolution des tumeurs était beaucoup plus rapide que quand elle était gardée en groupe. Et d'autre part, la structure du groupe aussi impacte l'évolution du cancer.
Alors ça veut dire que la mouche malade, quand elle est en groupe, en fait ça dépend de la nature du groupe, l'évolution de sa maladie, c'est ça, hein?
Voilà, en fait, quand les drosophiles cancéreuses vont développer des tumeurs sont ensemble, la progression du cancer est diminuée par rapport à une drosophile qui serait en groupe avec des drosophiles non tumorales.
Donc des mouches malades ensemble voient leur tumeur se développer moins vite.
Exactement.
Que celle qui est malade et qui serait confrontée à un groupe de mouches saines.
Et donc ce qu'on montre aussi dans cette étude, c'est qu'il y a une forme de rejet. Le problème, c'est l'isolation sociale. Donc on voit que quand une drosophile est toute seule, elle développe aussi le cancer de façon... les tumeurs se augmentent de façon assez rapide. Et quand elle est avec un groupe de drosophiles non cancéreuses, elle aussi a ce développement assez rapide. Et ce qu'on observe, c'est un effet de rejet social des drosophiles non cancéreux. Donc une forme de recognition des drosophiles.
Oui, alors ça veut dire justement, Frédéric Méric, vous avez observé dans cette étude le fait que les mouches peuvent reconnaître si leurs congénères sont malades ou pas, c'est ça? Ça c'est un énorme pas.
Donc il y a deux phases. C'est à l'état, parce qu'il y a aussi... on sait que ces drosophiles vont développer le cancer, ça c'est sûr. Et on voit qu'à l'état jeune, les drosophiles qui vont développer le cancer ont tendance à se regrouper. Et par contre, à l'état évolué, quand il y a déjà le cancer, elle s'évite.
Pour l'instant, on est incapable d'expliquer pourquoi il y a ces choix entre guillemets, qui sont faits par les drosophiles.
Est-ce que c'est dû juste je suis une drosophile malade ou pas, ça on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y aurait un système
de reconnaissance au fond de la maladie chez les individus.
De la maladie chez les individus.
Et alors, pourquoi la mouche drosophile reste un modèle biologique idéal en fait pour faire ce type de recherche? Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez procédé, parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas évident d'imaginer comment on observe des mouches.
Alors nous, dans notre laboratoire, ce qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre comment les interactions sociales affectent le comportement et la physiologie des individus d'un point de vue évolutif. Et le modèle cancéreux est intéressant. Et forcément, vous dites à un humain qu'il a un cancer, ça va changer son comportement. Ou en tout cas, il y a des multifacteurs qui font que c'est difficile de dissocier pourquoi est-ce que on évolue le cancer ou pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas le cancer. La drosophile, c'est un modèle génétique. Génial pour ça, parce que vous pouvez faire des drosophiles qui vont faire du cancer.
Et on peut induire. Voilà, vous induisez le cancer génétiquement et ensuite vous utilisez un système de vidéo pour observer leur
exactement.
Mouvement. Alors pourquoi aujourd'hui il est quasiment impossible de transposer justement ces résultats aux êtres humains? Vous avez commencé peut-être à nous répondre. Il serait tentant de le faire finalement, de lier cancer et interaction sociale. Pourquoi on ne peut pas le faire?
On pourrait. Forcément, on est un peu tenté de le faire, mais je pense qu'on est encore très loin de voir les relations entre les drosophiles et les humains. Et à cause de ces facteurs, à cause du fait qu'il y ait trop de facteurs, finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce que quelqu'un va développer un cancer chez l'homme ou pas. Est-ce que c'est parce que vous buvez, vous fumez ou tout ça? Et pourquoi est-ce que tout ça? Donc c'est là que ça devient compliqué. Après, il y a des études qui proposent que l'isolement social ou le sentiment d'être socialement isolé affecterait la dynamique d'évolution du cancer.
En tout cas, chez la mouche, c'est visible. C'est ce que vous avez observé dans votre laboratoire.
Qui ne sait pas qu'elle a un cancer.
Absolument. Et ça fait l'objet d'une publication dans Nature Communication. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Frédéric Méry. Jean-Philippe Usan, Frédéric Méry, disons, on est très très loin de la physique quantique. Je suis sûr que vous pouvez nous trouver du quantique là-dedans, vous.
Non, mais non, je peux dire une chose quand même. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de l'environnement. En fait, en physique, on a cette attitude de toujours avoir un système isolé à l'infini et tout ça. Et en fait, dès qu'on commence à regarder un système dans un environnement, des fois, il change de comportement. Un exemple souvent que je donne, c'est vous prenez un neutron. Ça, c'est une des particules. C'est une particule qui, quand elle est à l'état libre, a une durée de vie de 880 secondes. Vous la mettez avec des protons et des neutrons, ça fait un noyau et il devient stable. Donc, il est instable à l'état libre, elle est stable dans un noyau. Et donc, voilà, en fait, l'effet de l'environnement est quelque chose de très difficile à décrire en science, encore plus quand c'est dans des disciplines comme la biologie, parce que là, à l'état simple, on ne sait pas modéliser, on n'a pas vraiment des objets fondamentaux comme des particules. Mais même en physique, l'effet de l'environnement est quelque chose de très, très difficile à décrire.
J'étais sûr que vous alliez nous trouver quelque chose. Il s'en sort toujours.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre la physique et la biologie.
Restez.
La mouche et physique quantique. C'est le titre le plus improbable.
Les bases doivent être les
mêmes. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Méry, et vous qui êtes donc de ce laboratoire évolution, génome, comportement et écologie. Catherine Decopé, merci.
Merci, Mathieu.
À bientôt.
Merci.
Just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail. You don't want no champagne. You like the money or nothing, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you're worth. My angel on earth, got a message this morning on my cell phone. I felt my heart bleeding. You don't like your alibis. Give me by those silly guys. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. Yeah, I don't want no cocktails. You love
Winston McAnuff est fixé avec My Angel.
Je me disais que tu pourrais m'apprendre un peu de physique.
La physique englobe l'univers tout entier, des particules quantiques aux supernovas, du mouvement des électrons à l'interaction des galaxies.
Oui, ok, cool, mais fais-moi un petit résumé.
La tête au carré.
Voilà, ben nous aussi on va demander à Jean-Philippe Buisson de nous faire plein de résumés pour parler de physique quantique. Et on a même réussi à le coller tout à l'heure sur la définition pour les enfants de 10 ans.
Bah oui.
C'est pas facile, hein.
Non, mais ça dépasse la physique, ça s'appelle la pédagogie. C'est-à-dire qu'on veut expliquer quelque chose, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Votre prof fait la même chose. À chaque fois que vous devez enseigner quelque chose, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ceux à qui vous voulez enseigner. En 2005, j'avais écrit un petit livre pour enfants sur la gravitation. Donc, quand même, un truc où, voilà, les objets tombent, c'est assez concret. J'avais travaillé avec une classe de CM1. En fait, il avait fallu commencer par déjà savoir quelle était la représentation d'un enfant de 9-10 ans avant de savoir comment on allait pouvoir attaquer le problème. Ouais. Et donc, il n'y a pas de règle universelle d'enseigner quelque chose, même à n'importe quel âge. Et c'est pour ça qu'on a des enseignants. Et c'est pour ça qu'enseignant, c'est un métier aussi très, très difficile qui demande de l'innovation et un aspect humain, et que ce n'est pas des ordinateurs qui vont remplacer ça.
Voilà. Donc, il faut comprendre le cerveau des enfants.
Il faut comprendre l'autre. Oui. On veut transmettre. Transmettre, il y a deux personnes. Il y a celui qui veut donner quelque chose. C'était Giordano Bruno qui disait il faudrait être capable de mettre un fil de coton entre deux récipients pour faire passer le liquide. On veut faire passer la connaissance. Souvent, même notre connaissance à nous, on peut la connaître techniquement, mais au moment où on doit l'expliquer, on est devant vraiment notre propre ignorance.
Ben là, il va falloir une pelote de laine. Il y a plein de cerveaux ici qui ont envie de vous poser des questions avec les élèves donc, du lycée Jean Monnet de Montpellier. On va discuter avec eux. Je signale quand même, Jean-Philippe Buisson, que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cosmologie de gravitation à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et vous avez un livre qui va sortir bientôt. Vous reviendrez pour en parler. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici maintenant. Ce sera dans un mois à peu près aux éditions Flammarion. Alors voilà, une quinzaine d'élèves avec leur professeur de maths thématique Michel Bourguet, qui ont des questions à vous poser. On a fait connaissance avec Justine et Cléo tout à l'heure. Vous êtes encore avec nous au micro, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé autour des maths et de la physique qui vous ont finalement amené jusqu'ici au micro de la tête au carré? C'est Justine qui commence.
Cléo. En fait, c'est la continuité d'un projet qui alliait maths et littérature. Donc, ça s'appelle La racine des mots est-elle carrée. Mm-hmm. Donc, c'est un projet animé par notre professeur de maths. Et ça a la forme d'un prix littéraire.
Donc le principe, c'était il y avait une sélection de livres qui étaient autour des maths et de la science. Et donc nous avons pu, à côté de ça, rencontrer et interviewer différents auteurs. Mm-hmm. Et nous avons pu rencontrer Thibaut Damour, qui est un éminent physicien.
Et, oui.
Et il nous a un peu parlé aussi de physique quantique.
Mm-hmm.
Et donc ensuite, Mathieu Vidard, et vous étiez venu dans notre lycée en 2016.
Oui, c'est ça. À Montpellier, on s'était rencontrés. Mais c'était vos prédécesseurs, en réalité, parce qu'ils ont passé le bac depuis.
Oui. Hein.
Donc maintenant, c'est l'occasion de pouvoir discuter avec vous. Thibaut Damour, vous le connaissez bien.
Oui, je le connais. C'est brillantissime. Il a eu la médaille d'or du CNRS cette année.
Absolument. Il avait publié chez Dargo Le mystère du monde quantique avec Mathieu Burnien, qui était une bande dessinée.
Donc,
c'est un bon accès pour justement discuter de tous ces sujets. Alors, on va commencer avec les premières questions. Je crois que c'est Mohamed, qui avait une première question. Alors, vous aviez d'ailleurs tous envie, avant même de parler de la physique quantique, d'évoquer le métier de chercheur, c'est ça, hein?
C'est ça.
Quelle est la question que vous souhaitez poser à Jean-Philippe Buisson à ce sujet-là, alors?
La question que je souhaitais poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir physicien et cosmologiste?
Alors ça veut dire revenir sur une grande partie de ma vie, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de projet vraiment. Tu vois, j'avais pas 7-8 ans, disons, je veux être astrophysicien ou cosmologiste. En fait, c'était pas du tout le cas. Pour le contexte, moi, j'ai grandi du côté, pour ceux qui connaissent, de Choisy et Thiès, et dans le Val-de-Marne. Donc voilà, c'était à l'époque ce qu'on appelait les banlieues rouges de Paris. Donc il y avait, dans cette époque-là, quand même une sorte de... on va dire de croyance que l'éducation et la connaissance étaient quelque chose de bon pour nous. Et donc, on était très motivés, mais on connaissait pas de chercheurs. Il n'y avait pas Internet et les bibliothèques, il n'y avait pas beaucoup de livres de vulgarisation. Il n'y en avait même pas beaucoup parce que la vulgarisation s'est vraiment lancée avec Hubert Reeves et c'était un peu plus tard, une dizaine d'années après. Et donc, moi, j'étais intéressé. J'adorais aller à l'école et j'adorais apprendre. En fait, je crois que la première chose, c'est que j'aimais apprendre. Quoi que ce soit, c'est-à-dire je lisais beaucoup et j'aimais autant l'histoire, la géographie, la biologie, les maths, la physique, j'aimais apprendre. Et puis ça s'est décanté et quand j'étais au lycée, en terminale, il a fallu faire un choix et on m'a dit ça serait pas mal d'aller en classe prépa parce que tu te débrouilles pas mal en maths et en physique. Et donc je suis allé faire une classe prépa et je suis venu à Paris Et là, j'ai commencé à regarder des maths un peu plus intéressants, de la physique qui a commencé à s'ouvrir. J'étais à Paris, en face du lycée Saint-Louis, il y avait les presses universitaires de France, donc avant l'école, tu vas, tu bookines, tu découvres des livres. J'ai eu la chance d'aller au Palais de la Découverte, j'ai acheté mon premier livre écrit par Einstein sur la relativité instantanée, dans lequel je n'ai rien compris.
Ah oui, quand même, ça me rassure.
Oui, non, mais je n'avais rien compris. Mais je me suis dit, ce truc-là, je veux le comprendre. Et de fil en aiguille, ça s'est passé. Et après, il y a eu des rencontres. Et peu à peu, j'ai compris que je préférais la physique aux mathématiques, parce qu'il y avait une relation au monde réel et que pour moi, c'était important. J'adorais les maths, mais ça restait quand même un petit peu déconnecté du monde réel, la matière, les choses qui se passent dans notre univers, et qu'on pouvait allier aux mathématiques. Je pense que c'est pour ça que je suis allé vers la physique théorique. Et ensuite, ça a été des rencontres, en particulier pour mon année de DEA, ce qui s'appelle Master 2 aujourd'hui. Et on a des enseignants. La personne qui faisait le cours de relativité générale s'appelait Nathalie De Ruel, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai eu la chance qu'elle me prenne en thèse. Et de fil en aiguille, ben voilà, la relativité restreinte m'a amené vers la relativité générale. Et il se trouve que c'était une période en France où la communauté de cosmologie était en train de se structurer, parce qu'il y avait des astrophysiciens, il y avait des physiciens des particules, il y avait de la physique théorique. Et on était à l'époque, on commençait à discuter ce qui allait devenir le satellite Planck. Et donc, il y a une communauté qui s'est retrouvée pour dire, en fait, on aborde la même question de l'univers, on voudrait faire de la cosmologie. C'était déjà développé plus aux États-Unis et en Angleterre. Et je suis arrivé à ce moment, j'étais dans ma thèse, où la communauté commençait à se structurer. Et donc, tu fais ta thèse dans cet environnement-là, et il y a des nouvelles questions qui se posent. Il faut traduire, parce que tu es dans des réunions où il y a des gens qui font de la physique théorique, de la physique des particules et des astrophysiciens. Ils parlent pas le même langage, ils se comprennent pas tout le temps. Et toi, tu es étudiante, tu es au milieu, tu essayes de faire un peu tes choses. Et donc, j'ai fait ma thèse, c'était parti sur de la relativité générale. Ça a dérivé sur de la cosmologie assez théorique. Puis ensuite, je suis parti, j'ai commencé à enseigner le sujet. Et ce qui fait qu'ensuite, ça m'a lancé, tu vois, dans ce domaine. Mais parce que c'était aussi un domaine qui était vraiment en train de s'ouvrir à l'époque.
Allez, une autre question de la part de celui qui est le plus bronzé dans ce studio parce qu'il a passé son été sur sa planche de surf, c'est Adrien, qui aime aussi la physique apparemment, Adrien.
Oui, c'est ça, hein? J'apprécie franchement la physique et les maths et les sciences aussi en général.
Mais... Il n'y a pas que le surf et la planche à voile alors.
Non, mais c'est important le sport aussi.
Alors, ta question pour Jean-Philippe Usan.
Et donc du coup, maintenant je voulais vous demander, est-ce que vous comptez rester dans la cosmologie toute votre vie ou vous comptez peut-être un jour changer de sujet et devenir spécialiste peut-être d'un autre sujet dans le niveau physique ou autre?
C'est une excellente question. Et on en reparlera quand, parce que tu liras ce livre. Il y avait un moment où il y a des moments dans la vie où on fait un peu des bilans par rapport à ce qu'on a fait, où est-ce qu'on veut aller. Et j'ai fait de la cosmologie, j'ai travaillé sur d'autres sujets qui sont de la relativité générale. J'ai fait de la physique aussi beaucoup plus théorique. Et souvent, je me pose la question de savoir est-ce qu'on peut évoluer vers un autre domaine. Donc ça, pour l'instant, je peux pas te donner la réponse. Mais ça fait aussi partie du métier de chercheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as différentes activités. Tu es dans la, on va dire plutôt dans la production, c'est-à-dire les sujets sur lesquels tu réfléchis, que tu essayes de faire avancer, où tu vas publier des articles, tu vas retrouver au premier plan, tu vas aller à des conférences. Et puis il y a des choses sur lesquelles tu fais que lire et tu te nourris. Et il y a un moment, tu t'es tellement nourri d'un certain nombre de questions, d'un certain nombre d'articles, tu dis ça je le comprends pas, tiens si je mets ça avec ça, qu'est-ce qui va se passer, que tu sens qu'il y a quelque chose de mûr pour aller vers une autre voie. D'accord. Donc ça je peux pas te dire laquelle pour l'instant, j'ai des petites idées mais c'est encore trop flou pour moi pour pouvoir en parler.
Finalement c'est quoi la cosmologie, Jean-Philippe Usan, exactement pour qu'on comprenne bien sur quoi vous
travaillez ? Donc la cosmologie c'est l'étude de l'univers dans sa globalité. Donc ça repose à la fois sur l'astrophysique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, mais aussi ça englobe la physique théorique pour avoir une représentation de l'espace et du temps et savoir comment l'univers est structuré, comment il s'est développé, et à l'intérieur, comment les galaxies sont apparues, et essayer de remonter dans les phases les plus primordiales de l'univers.
Voilà. Donc ça peut faire une carrière quand même, ça.
Ah non, mais ça peut faire une carrière.
Il y a qu'occuper pendant un petit moment. Hein. Ouais.
Mais après, c'est aussi une question de goût, de rencontre. Les rencontres sont très importantes, c'est-à-dire souvent, on va rencontrer une personne, on va commencer à discuter, et puis, alors que seul, on n'aurait pas été dans cette direction-là, à deux, on se rend compte que déjà, on prend plaisir à travailler ensemble, et on se complète bien, et on va pouvoir aller explorer des chemins qu'on n'aurait pas explorés tout seul. Donc ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de rencontres de ce style-là dans ma carrière. Et ce n'est pas des choses qu'on prévoit. Et ça aussi, c'est-à-dire que je pense que dans une carrière de chercheur, il faut se donner les éléments. C'est-à-dire, oui, il faut avoir fait ses maths, sa physique, il faut connaître, il faut lire, il faut être... Mais il y a un moment, il y a des choses qui se déclenchent et ça, on ne peut pas le prévoir. C'est la rencontre, c'est les voyages. C'est aussi pour ça que c'est un métier où l'interaction humaine est très importante. On ne peut pas rester simplement à lire tout seul dans son bureau. Il y a un moment quand les idées ont commencé à distiller dans votre cerveau, il faut essayer de les exposer d'abord à des collègues, ensuite de les enseigner, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que vous vous confrontez à votre propre compréhension ou incompréhension. Vous arrivez à mieux définir les questions auxquelles vous voulez répondre. Et ça prend beaucoup de temps. Et il y a des passages qui sont même des traversées du désert où des fois on reste longtemps en se disant mais je ne comprends plus rien à rien et qui peuvent être assez déprimants. Donc on est des fois dans un état un peu bimodal, on comprend un truc, on est super heureux, on est le roi du pétrole d'une certaine façon, quoi, ça marche, on a compris. Et puis d'un autre côté, on est déprimé parce que ça, le truc fonctionne pas. Donc voilà, bah c'est comme toi, tu fais du surf. Moi, j'adore le surf aussi, donc on est fait pour s'entendre. Mais c'est pareil, tu vois, il y a des moments, t'es sur ta vague, et puis une fois qu'elle est finie, bah faut que t'ailles ramer pour en chercher une autre.
Et c'est comme la mouche drosophile, il faut aller aussi vers l'autre.
Voilà. Il faut aller vers l'autre,
c'est ça. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous de la part des lycéens et puis des auditeurs de France Inter, franceinter.fr.
Dis-moi, lumineux scientifique, tu n'en es pas moins philosophe, comme chacun sait, que fais-tu donc sur la colline, le nez dans les astres ?
C'était un été ordinaire, ces garçons-là étaient gentils, trouvaient toujours les mots pour plaire, moi je me cachais pour écrire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les filles avaient ce goût amer, j'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons-là savaient y faire, moi je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les couples avaient sans prévenir, ces garçons-là étaient virils. Et la violence à divertir avec ce garçon si facile. Tiens-le, 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 tiens-le. Et leurs motos ont fait rugir la terreur à mes yeux rougis. Ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête, toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être, je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Jamais eu d'oreille, et mes parents n'ont jamais su que l'enfant y était perdu. Là-bas, 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 là-bas. Promis, je ne vous oublierai pas. Ce garçon ordinaire, ce garçon-là, ce garçon-là, ce garçon-là.
Ces garçons-là, c'était Radio Elvis.
La physique quantique me comble de bonheur. C'est comme observer l'univers tout nu.
La tête au carré. Mathieu Vidard.
Voilà, Jean-Philippe Huzon qui est consterné parce qu'il vient
d'entendre. Ah non, j'adore, mais non, c'est bien. C'est tellement bon d'être dans une époque où quand vous êtes un peu nerd, vous êtes plus mis au banc de la société comme il y a une quarantaine d'années. Hein, ça fait du bien. Moi, voilà. Je suis très content.
Et pour parler de physique quantique, on peut aussi s'amuser d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de raison.
Mais je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, même si c'est très sérieux, il faut le faire en s'amusant.
On le fait mieux d'ailleurs, non? Vous croyez
moi,
pas?
Moi, je pense qu'il faut faire les choses.
On apprend mieux.
On apprend mieux. Il faut être libre. Il faut s'amuser.
Alors, ils ont plein de questions à vous poser toujours. Hein, nos élèves du lycée Jean Monnet, terminal S, donc à Montpellier. C'est Maria qui est une grande sportive aussi. Hein, Maria, parce que tu fais de la gymnastique de haut niveau, c'est ça? En dehors de l'école, donc tu avec des compétitions.
Oui.
Bravo.
Merci.
Et donc de la physique.
Oui, voilà, moi aussi.
Mais ces élèves sont archi complets, c'est formidable. Alors, ta question pour Jean-Philippe Huzon.
C'était pour savoir qu'est-ce que c'était que la physique quantique.
Ah ben voilà, tiens.
Donc voilà. Donc, chers auditeurs, si vous avez 3 heures, nous allons commencer. Donc, tu fais de la gym. Alors, je vais te donner un exemple de concret, en fait, de physique quantique, de quoi qu'on pourrait ramener à de la vie de tous les jours. Ça s'appelle l'effet tunnel. Donc, tu sais que si tu veux faire du saut en hauteur, par exemple, quand tu es sportif, il faut que tu passes au-dessus d'une certaine barre. D'accord? Si ton corps était complètement indéformable, si c'était une bille, il faudrait que la bille passe au-dessus du mur. Bon, quand tu fais du saut, quand vous avez déjà vu les alors c'est pas de la gym, c'est de l'athlétisme, quand ils sautent, en fait, leur corps se déforme, d'accord? Et le centre de gravité de la personne, en fait, passe sous la barre. La personne se déforme, son corps passe au-dessus, et le centre de gravité, qui était l'équivalent de la particule, va passer en dessous. Parce qu'on a remplacé un objet indéformable en un objet qui peut déformer, on peut sauter plus haut que si on était pas déformable. Et ça, c'est un peu de la mécanique quantique. La mécanique va nous apprendre en particulier que jusqu'alors, on pensait qu'il y avait dans la nature des objets qu'on appelait des particules et des phénomènes qu'on appelait des ondes. Et en fait, ce qu'elle nous apprend, c'est que ces deux choses, ce sont deux facettes d'une même entité, qu'on va appeler une fonction d'onde. Et donc, par moment, une particule va pouvoir se comporter comme une onde, elle va pouvoir se déformer, donc faire de l'effet tunnel, par exemple. Et puis, parfois, une onde va avoir des propriétés d'une particule, il peut y avoir des collisions, il peut y avoir des... Et donc, par exemple, la lumière, qui est une onde, quoi, qui était pensée être une onde depuis la théorie de Maxwell, on lui associe aussi une particule que vous connaissez qui s'appelle le photon. Et de temps en temps, dans un phénomène physique, je dois décrire la lumière comme une onde, parfois comme une particule. Et ça, c'est les deux limites classiques. Et puis, il y a un cas où on ne peut pas dire l'un ou l'autre, et là, on a la fonction d'onde qui va décrire l'évolution de ce système-là. Donc, la mécanique quantique, c'est d'abord revoir tous les concepts qu'on avait de la physique classique, se dire qu'il y a des moments, et en particulier dans l'infiniment petit, où ces paramètres ne sont plus opérants, et que si je raisonne avec ces paramètres, j'arrive à des contradictions.
C'est-à-dire que les lois ne sont plus les mêmes, Jean-Philippe Usan, à ces échelles-là?
Bah les lois, donc on a les lois de la mécanique quantique qui sont des lois particulières. Donc si je décris le mouvement d'une particule en physique classique, je vais pas avoir les lois de Newton qui vont dire quelle va être la trajectoire de la particule. Quand je décris l'évolution d'un système quantique, je vais avoir sa fonction d'onde qui va me dire donner des renseignements sur la probabilité que la particule se trouve à un certain endroit. J'ai une équation et en fait, on va avoir une évolution déterministe de cette distribution, mais au moment où je fais la mesure, je vais choisir un des états. Et ça, c'est complètement différent. C'est pas quelque chose que l'on a dans la mécanique classique. Donc, ça veut dire repenser tous les concepts fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? Qu'est-ce que c'est qu'une particule? Qu'est-ce que c'est qu'une mesure? Et c'est ça qui est fabuleux. Vous avez votre prof de français, mais l'année prochaine, cette année, vous allez commencer à faire de la philosophie. Quand vous regardez les gens qui ont développé la mécanique quantique, ils écrivent des textes que l'on peut considérer comme des textes de philosophie. Il se pose la question de la nature des objets qu'il manipule. Et ça, je crois que tous les grands physiciens, même tous les grands scientifiques, le font à un moment ou à un autre. On ne peut pas dire qu'une particule, un objet, on va dire un électron, c'est une particule dont je vais donner les caractéristiques mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui s'est construit. Et cette construction mathématique que j'associe à cet objet de la nature, elle peut être valable que pendant un certain temps. Et il y a un moment, je vais découvrir de nouvelles caractéristiques et je vais devoir changer de définition. D'où l'importance de bien définir les termes et les concepts avec lesquels on travaille. Donc je vous engage, vous êtes suffisamment grand, reprenez avec vos profs les premières pages des Principia de Newton, où il dit attention, on va faire la différence entre le lieu et l'espace, entre le temps et la durée. On va pas tout mélanger. Il y a un truc qui existe. Je suis dans un lieu ici et je la décris par un espace mathématique. Je suppose qu'une bonne description de cet endroit que j'appelle moi l'espace, c'est un espace euclidien à 3 dimensions. Il donne une définition. Et ce choix-là n'est validé qu'a posteriori. Et si j'arrive à des problèmes avec une expérience ou de compatibilité avec une autre théorie physique, il se peut que je doive revoir les objets mathématiques qui décrivent un phénomène de la nature. Donc en fait, rien n'est donné a priori. Il n'y a pas un grand dictionnaire qui est là, qui vous dit les particules, c'est ça. On est dans une construction perpétuelle, dans la création de définitions perpétuelles qui vont s'enrichir et qui vont changer au fur et à mesure.
Bon, est-ce que tout le monde a suivi autour de la table la définition de la... Oui, facile, hein. Fastoche, mais oui, tellement. Alors, Kathleen, qu'est-ce que vous apprenez en terminale, justement, sur la mécanique quantique, sur la physique quantique? Tu as suivi parfaitement ce que nous disait Jean-Philippe Usan? C'est des choses dont tu avais déjà entendu parler?
Alors, en fait, moi, je m'intéresse en particulier à la physique quantique. Et j'ai vu pas mal de vidéos, enfin j'essaie de lire des choses, par exemple la BD de vulgarisation de Thibaut Damour, qui est vraiment, on peut comprendre là par exemple, il fait un parallèle avec Tintin, un peu avec son chien, avec Milou, donc on essaie de comprendre le chat de Schrödinger, et on comprend que au niveau macroscopique, ça a rien à voir en fait avec l'échelle de l'infiniment petit. Et donc en cours, on essaie de faire de la physique théorique et de comprendre un peu les photons. Et par exemple, on voit que les photons, ça peut être des ondes, mais en même temps, ça peut être un trait de lumière qui va être horizontal. Donc, de chaque point de vue différent, on peut avoir une même image d'une même chose, en fait.
Ben, je trouve ça très bien, moi. C'est absolument complémentaire avec ce que vient de nous dire Jean-Philippe Cuzan.
Et là, ça demande une sorte de souplesse intellectuelle, de ne pas se fossiliser dans ses connaissances. Parce qu'en fait, si certains d'entre vous veulent faire de la recherche plus tard, vous allez devoir remettre en question les choses que vous avez apprises à l'école.
Julia, tu as une question aussi pour Jean-Philippe Cuzan. Et toi, je crois que tu souhaites devenir médecin.
Oui. Hein,
c'est ça, donc un petit peu différent par rapport à tes camarades. Alors, ta question.
Et du coup, moi, ce serait pour savoir si vous pouviez nous expliquer ce qu'est que la matière noire.
La matière noire. Alors, la matière noire.
Le lien avec la physique quantique,
ouais,
c'est quoi
aussi.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lien entre la matière noire et la physique quantique.
Oui.
La matière noire, c'est d'abord un problème d'astrophysique. Donc, dans la nature, il y a une loi que vous connaissez qui est, j'espère, qui est la loi de la gravitation universelle, que l'on peut décrire par Newton, la loi de Newton, hein, c'est-à-dire que les objets s'attirent les uns les autres. Si j'ai un objet, par exemple une planète qui tourne autour du Soleil, d'accord, à partir de la mesure de la taille de l'orbite de la Terre et de sa période, je peux avoir une mesure de la masse du Soleil. D'accord, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Je ne sais pas ce qui est au programme, ce qui n'est pas au programme, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, c'est une loi qui a été déterminée par Kepler de façon complètement à partir des observations, en particulier de celle de Mars, et que l'on peut retrouver à partir de la gravitation universelle de Newton. Donc là, le Soleil attire la Terre tourne autour du Soleil, et en fait, plus la Terre est loin, plus elle doit tourner lentement autour du Soleil, et il y a une loi entre la taille de l'orbite et la période. Imaginez que j'éteigne le Soleil, je laisse sa masse, je l'éteins, je ne vois plus le Soleil. La Terre, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle continue de tourner.
Donc je ne vois pas le Soleil, très bien, je ne vois pas le Soleil, mais parce que je vois la trajectoire de la Terre, je peux en déduire que là, même si je ne le vois pas avec mes yeux, il y a de la matière qui n'est pas visible et qui agit gravitationnellement sur la Terre. Vous comprenez ça ? Alors ça, c'est ce que des astrophysiciens depuis les années 1930, en particulier Zwicky, regardaient des amas globulaires. Donc vous avez en fait une sorte de petit gaz d'étoiles. Et puis vous dites, on voit les étoiles qui bougent, on peut mesurer la vitesse de ces étoiles. Et ces étoiles-là, elles s'éparpillent pas dans l'espace. Elles restent regroupées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont attirées les unes par les autres par leur effet de gravitation. Et il s'est rendu compte que ces vitesses ces étoiles étaient trop importantes et que s'il n'y avait pas eu plus de masse que l'idée a priori qu'il en avait à partir de la luminosité des étoiles, eh bien, ces étoiles devraient partir à l'infini. Pareil avec les courbes de rotation des galaxies. On voit des étoiles tourner autour du centre de la galaxie. Les étoiles lointaines tournent trop vite. Elles devraient s'échapper. Si elles s'échappent pas, ça veut dire qu'il y a plus de matière. Donc ça, c'est deux indications. Et puis ensuite, la cosmologie, la compréhension de comment les galaxies se sont formées, les structures de l'univers se sont développées. On se rend compte que on n'a pas assez de matière si on est simplement avec la matière ordinaire et que l'on voit à travers la lumière des étoiles et la lumière des galaxies. Donc on a plein d'indications qui nous disent, quelque part, il y a de la matière que vous ne voyez pas avec vos yeux, avec vos télescopes, et qui pour autant agit gravitationnellement sur la matière ordinaire. Et ça, vous la mettez en évidence de façon indirecte. Pour un physicien, on voit, parce qu'on voit, on réagit à une interaction, que ce soit de la lumière ou une autre interaction. Mais vous rendez bien compte que la conclusion dépend d'une chose, c'est qu'à ces échelles astrophysiques, il faut être sûr que la gravitation est bien décrite par, bon, j'ai dit Newton, mais en fait c'est la relativité générale à ces échelles-là, donc la théorie de la gravitation que l'on a. Donc on a une loi dans laquelle on croit, on regarde les mouvements des corps et on reconstruit la matière qui est à l'origine de ces mouvements-là. Et on ne la voit pas. Donc la question maintenant, c'est est-ce que ça met en cause notre loi de la relativité générale ? Et c'est pour ça que depuis maintenant une vingtaine d'années, on a développé de plus en plus de tests de la relativité générale aux échelles astrophysiques. On en avait beaucoup dans le système solaire. Maintenant, on est capable de faire ça aux échelles astrophysiques. Et puis, si c'est de la matière, quel est ce type de matière ? On sait que ce n'est pas de la matière ordinaire, ce qu'on appelle la matière baryonique. Et comme on a d'autre part un modèle standard de la physique des particules qui classifie toutes les particules connues, si on découvre cette particule, où est-ce qu'elle se met dans cette hiérarchie ? Donc quelque part, comment est-ce que ça va bousculer l'édifice théorique de la description de la matière et des forces que l'on connaît aujourd'hui dans la nature ?
Sauf que la matière noire, Jean-Philippe Cuzan, on a vraiment la preuve de son existence aujourd'hui ou pas ?
Tout dépend ce qu'on appelle preuve. Donc ce que je disais, c'est qu'on avait plein d'indications, plein de phénomènes différents les galaxies, les amas, la formation des grandes structures, les effets de lentilles gravitationnelles, qui pointent tous dans la même direction. C'est pas une preuve. D'accord? Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, c'est une hypothèse de travail qui est très efficace parce qu'on peut faire des simulations numériques, on peut comparer des observations, mais on ne sait pas quelle est cette particule. Donc là, c'est plutôt te dire, point d'interrogation, on a le profil du suspect, maintenant on veut le trouver. Excuse-moi.
Bernard Lavellier, Catherine Ringer, Idées Noires sur France Inter.
Les gars, je viens de voir la salle, il y a au moins 25 personnes là-dedans.
Tu veux rire ?
Ah bon, c'est tout ?
C'est tout ? Pour un séminaire sur la physique des particules, c'est Woodstock.
La tête au carré sur France Inter.
Et oui, et nous, on arrive à avoir du monde quand même pour parler de physique des particules. Jean-Philippe Uzan, avec un cours d'astrophysique cet après-midi et des questions posées donc par les élèves des terminales S du lycée Jean Monnet de Montpellier. Et c'est Menprit qui souhaite vous interroger. On va vraiment dans tous les domaines. Hein. On a fait la physique quantique, on a fait la matière noire et là, on arrive sur les trous noirs, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, quelle est ta question, Menprit ?
Donc, c'était pour savoir, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un trou noir et comment est-ce que ça se forme ?
J'aime bien le « en quelques mots ».
En quelques mots. Ah. Alors, un trou noir, c'est trou et c'est noir. C'est voilà. Bon à savoir. Donc un trou noir. Donc là on va le faire rapidement. Puis je vous offrirai le film qu'on a fait avec Cédric Villani et puis Jean Eisenstadt et Quentin Lazzarto à l'IHP sur l'histoire des trous noirs de l'objet physique le trou noir. Alors un trou noir c'est d'abord une solution des équations de la relativité générale d'Einstein. C'est comme ça que ça a été d'abord trouvé comme une solution mathématique d'un objet assez bizarre qui séparait l'espace en deux régions, une région intérieure et une région extérieure. Si tu es à l'extérieur, tu peux envoyer de la lumière, par exemple, de l'extérieur vers l'intérieur, mais quand tu es à l'intérieur, tu peux pas envoyer la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Aucune lumière n'en sort. Alors on va dire, puisque c'est sur la mécanique quantique, de façon classique, il y a Hawking et tout ça, on va pas parler de ça. Vous en avez super entendu parler, surtout dans Big Bang Theory et tout ça. Donc, indépendamment, on va rester classique juste pour le trou noir, parce qu'on doit le faire en deux mots. Et donc, c'est d'abord avant tout une solution mathématiques. Il a fallu 40 ans pour comprendre mathématiquement quelle était cette solution, avec les noms comme Roger Penrose, Stephen Hawking, qui ont travaillé beaucoup sur la compréhension de ces choses-là. D'un autre côté, il y a l'astrophysique. Dans l'astrophysique, on a des étoiles, on a compris comment fonctionnaient les étoiles, on a compris que les étoiles n'allaient pas briller éternellement, et qu'en fin de vie, elles allaient avoir une évolution qui va dépendre de leur masse. Elles peuvent se transformer en supernova. Ces supernovas, donc au moment où elles explosent en fin de vie, peuvent soit mener à une étoile à neutrons, soit à un trou noir. Donc les trous noirs, qu'on va dire les trous noirs stellaires, donc des trous noirs qui ont des masses, on va dire, entre quelques masses solaires et quelques dizaines de masses solaires, seraient l'aboutissement de l'évolution stellaire d'étoiles qui se sont formés avec la matière environnante qui est par gravitation. Donc ça, c'est important parce que vous avez entendu qu'on a détecté, qu'on a prouvé l'existence de cette onde-là grâce à la détection des ondes gravitationnelles. Donc on revient à Thibaut Damour et tous ses travaux sur les ondes gravitationnelles. Et là, vous voyez, on parlait de la matière noire, donc ça me permet de relier les deux. C'est de se dire que les ondes gravitationnelles nous permettent de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir avec nos yeux, donc qui sont ces fameux trous noirs. On commence maintenant à être capable de mesurer le nombre de trous noirs, peut-être la distribution en masse qu'on pourrait avoir à l'intérieur des galaxies. Et donc, on va commencer à pouvoir mettre des contraintes sur les modèles d'évolution stellaire à l'intérieur d'une galaxie. Je forme un certain nombre d'étoiles par unité de temps avec une distribution en masse. On sait comment elles évoluent. On pourrait avoir une idée de la distribution des trous noirs en fonction de leur masse. Et ça, c'est quelque chose qui s'ouvre actuellement, qui est une nouvelle branche de l'astrophysique et peut-être pour votre génération.
Emma, juste une question complémentaire sur le sujet.
Alors, ma question, elle est un peu inspirée des films de science-fiction. Je voudrais savoir ce qui se passe si jamais un objet ou peut-être un humain, il rentre dans un trou noir.
Voilà. Alors, s'il rentre dans un trou noir, déjà, mathématiquement, qu'est-ce qui va se passer? Cet objet ne va plus pouvoir ressortir de ce trou noir.
Okay.
Et il va être attiré, mais inexorablement, vers l'intérieur, vers le centre du trou noir. Et là, le centre, il y a ce qu'on appelle une singularité. C'est un endroit où même l'espace et le temps lui-même ne sont pas définis. Donc là, on ne sait plus. La théorie de la relativité générale, à cet endroit-là, n'est plus opérante. Donc il va arriver là. Il va y avoir des forces qu'on appelle des forces de marée qui vont devenir de plus en plus importantes. Donc s'il a un corps, s'il a un vaisseau spatial, ce vaisseau spatial va être ce qu'on appelle spaghettifié, c'est-à-dire étiré. Donc je pense que c'est la phase terminale pour la personne consciente, probablement. Et puis, il va s'effondrer sur cette singularité. Et là, personne ne peut te dire physiquement ce qu'il va se passer, même au niveau des... Même une particule élémentaire, on ne peut pas te dire ce qui va se passer au moment où elle arrive là.
On manque de témoignages, malheureusement.
On manque de témoignages, ils essayent de les envoyer, ça n'est toujours pas arrivé.
Mélissa, à toi pour une question à Jean-Philippe Uzan.
Oui, donc bonjour Jean-Philippe Uzan. Donc ma question, elle ne concerne pas tellement les trous noirs, mais plus l'univers en général. Donc on entend beaucoup dire que l'univers est infini, et dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on n'ait pas détecté d'autres formes de vie qui soient similaires à la nôtre, ou assez évoluées pour se préoccuper des questions de l'univers, ou enfin, qu'elle nous ait détecté, ou quelque chose comme ça, quoi.
Voilà, alors deux questions. Donc déjà sur l'infini de l'univers, on dit que l'univers est infini. Ça déjà, c'est pas une chose qui est évidente. Juste comme ça pour parler un peu de moi. Dans les années 2000, avec Jean-Pierre Luminet, Alain Riazuelo, Roland Lauque, on avait beaucoup travaillé de savoir si l'univers était fini ou infini, si on pouvait mettre en évidence le fait que l'univers n'était pas infini. Mais en fait, on n'observe qu'une partie finie de l'univers. Aujourd'hui, ce qu'on a prouvé, c'est que l'univers est plus grand que la partie qu'on est capable d'observer. On ne peut pas prouver qu'il est infini parce que on n'observe qu'une partie finie de cet univers-là. On peut justifier à partir d'arguments théoriques qu'il serait infini, mais ça, c'est pas, ça n'en reste que théorique. Donc ça, c'est la première chose. Indépendamment du fait qu'il soit fini ou infini, notre univers observable est extrêmement grand. Il compte des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie avec je sais pas combien de milliards d'étoiles à l'intérieur.
Et on serait là tout seul, nous, dans l'univers sur Terre.
Voilà.
Ça n'a aucun sens.
C'est difficile à croire. Donc on peut se dire, il serait naturel qu'on a des exoplanètes presque autour de chaque étoile. Donc première question, quelles sont les conditions d'apparition de la vie? Même question plus difficile, et là, dommage que notre biologie soit partie. Qu'est-ce que la vie? Comment définit-on la vie? Et ça, c'est des choses qui commencent à se développer, qu'on appelle l'exobiologie. Et puis ensuite, même s'il existait de la vie, est-ce que cette vie serait de la vie macroscopique comme nous, des gros animaux à la surface d'une planète, ou plutôt des bactéries dans le sous-sol où la vie est peut-être beaucoup plus facile à se développer? On vous dit, on apprend à l'école qu'il y a cette zone d'habitabilité à une certaine distance. C'est une zone d'habitabilité en surface. Si vous êtes en souterrain, vous avez de nombreux autres lieux où vous pouvez développer de la vie. Et si on veut communiquer avec elle, il faudrait que cette vie soit un petit peu intelligente et qu'on puisse avoir ses signaux. Et troisième point qui nous embête, c'est même si on a de la vie intelligente qui nous envoie des signaux, il faut que ces signaux qui sont par exemple émis et qui ne se propagent pas plus vite que la vitesse de la lumière, nous parviennent. Donc plus ces étoiles sont loin, plus il faut de temps. Et vous l'avez remarqué autour de vous, les civilisations ont des durées de vie assez finies. Et donc comment est-ce que, déjà si on recevait aujourd'hui des signaux qui viennent de l'autre bout de la galaxie, ça voudrait dire des espèces qui l'ont émis peut-être il y a 10 000 ans ou 20 000 ans. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils étaient capables de l'émettre? S'ils sont au même stade d'évolution que nous, on recevra ces signaux peut-être dans 10 000 ou dans 20 000 ans. Donc il y a plein de problèmes qui sont, qu'est-ce que c'est que la vie? Où est-ce qu'on peut développer la vie? Et s'il y a de la vie intelligente, comment la reconnaître et comment communiquer avec elle? Et là, aujourd'hui, ça fait très très peu de temps qu'on observe notre univers. Une date importante, c'est 1924. Vous savez tous qu'il y a plein de galaxies dans l'univers. Il y a un siècle, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies dans notre univers. Donc vous voyez, notre connaissance de l'univers est très très récente. Donc ça aussi, il faut le garder. Ça ne fait pas autant de temps que ça qu'on observe l'univers et qu'on est à l'écoute de l'univers.
Alors malheureusement, c'est terminé puisqu'on n'a plus le temps de poursuivre cette émission. Il y avait Nina qui avait une question à vous poser sur l'instant zéro, le Big Bang. Mais ça tombe bien, Nina, parce que c'est une transition pour la prochaine émission qu'on fera avec Jean-Philippe Uzan, puisqu'il y a un livre qui va sortir sur la question, sur le Big Bang, chez Flammarion, le mois prochain.
Donc, et mardi à Montpellier.
Voilà, donc on se donnera rendez-vous pour en parler. Merci beaucoup à tous, les élèves du lycée Jean Monnet de Montpellier, pour votre venue aujourd'hui dans La Tête au Carré.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Science grand format, désormais le jeudi 20h45. Perrine Poubeau est avec nous. Bonjour Perrine.
Bonjour Mathieu.
Et ce soir, on va tenter d'en savoir plus sur les origines du peuplement de l'Amérique du Nord. Premier documentaire qui s'intitule « L'énigme des premiers Américains ». Et c'est une enquête qui développe une thèse qui n'a pas manqué de créer la polémique d'ailleurs, Perrine. Hein.
Oui, nous suivons les pas de deux archéologues, Bruce Bradley et Dean Stanford, qui soutiennent l'idée révolutionnaire que les premiers Américains seraient venus d'Europe il y a 20 000 ans. Leur position va donc à l'encontre de celle couramment admise d'un peuplement depuis l'Asie et beaucoup plus récemment vers 15 000 ans.
Alors sur quoi s'appuient ces deux archéologues pour avancer une thèse aussi audacieuse?
Ils ont fait une découverte étonnante en 2012 sur une île au large de la côte est des États-Unis. Dans une couche de limon datée de 20 000 ans précisément, ils ont trouvé deux pointes de flèches taillé par la main de l'homme.
Et donc, ils ont cherché à comprendre qui étaient, d'où venaient ceux qui avaient façonné ces pointes bifaces. On écoute justement un extrait de ce documentaire.
Bruce Bradley et Dennis Stanford ont comparé leurs trouvailles avec des outils préhistoriques du monde entier. Et ils ont trouvé des techniques de façonnage similaires. Celles d'une culture européenne appelée le solutréen.
Voici le moule d'une pièce bifaciale solutréenne, et en voici une qui vient de notre site. Elle présente des similarités troublantes. Même forme, même méthode de fabrication, même taille et même usage. Comment expliquer une coïncidence pareille?
Voilà, et ces similitudes ont donc amené les deux archéologues du film à faire le rapprochement avec la culture solutréenne, Perrine.
Oui, cette culture s'est précisément développée à la même époque en Europe. Les solutréens étaient particulièrement inventifs, on leur doit les pointes de flèche, le harpon, l'aiguille percée par exemple. Et nos deux archéologues soutiennent que ces Européens étaient tellement ingénieux qu'ils auraient traversé l'Atlantique en suivant la banquise qui recouvrait le nord de l'Atlantique au moment de la dernière grande glaciation il y a 20 000 ans. Mais comme toute nouvelle théorie, elle doit maintenant être confirmée par d'autres découvertes pour être validée par la communauté scientifique.
Voilà, donc c'est intéressant puisqu'on voit effectivement l'audace de ces chercheurs confrontés aux autres scientifiques. Donc ce sera le premier documentaire de la soirée. Vous avez le titre du second, Perrine Poubeau?
Oui, ce sera un documentaire intitulé « L'homme mystère de l'âge de pierre » qui relate une enquête passionnante d'une découverte faite dans une grotte en Chine qui remet en cause certains présupposés sur l'évolution humaine.
Voilà, donc là aussi, ça va pas mal bouger. Et le premier s'appelle, le premier documentaire, « L'énigme des premiers Américains », France 5 ce soir, 20h45. Merci Perrine Poubeau, à la semaine prochaine.